philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 8 février 96.
Pourquoi la psychologie est-elle toujours du domaine de la cause matérielle ? De la quantité, ne la dépasse-t-elle pas? Regardez le manuel de Dumas. C'est intéressant. Alors, il y a un exemple de Dumas que je cite toujours parce qu'il le donne. C'est intéressant. Ceux qui sont des amateurs de thé et de café. Bandez-vous les yeux. Bandez-vous les yeux. Bougez-vous le nez. Puis on va vous servir du thé ou du café et vous ne pourrez pas distinguer. Hein, c'est amusant ça. Faites l'expérience. Le matin, quand vous trouvez le café mauvais une fois, mettez vite, vite, vite. Ou le thé, parce que c'est de l'eau chaude. C'est du thé ou du café. Non, venez. Regardez la méthode de Piaget, si vous voulez. Il faut lire un psychologue moderne en vue. Piaget, parce qu'il était à Genève et qu'il était, qu'on l'entendait jusqu'à Fribourg. Voilà. Et je me suis amusé avec Piaget parce qu'il y avait une thèse d'un étudiant sur Piaget et qui est venu me demander si je pouvais l'aider. J'aimais beaucoup ça, travailler avec un étudiant pour préparer sa thèse. Certaines choses, mais pas. On voit le positivisme extraordinaire. Alors, je ne sais pas, il faudrait étudier. C'est toujours la mensuration. Alors, on pourra regarder de temps en temps, peut-être, certains problèmes ou vous-même préparer un problème de psychologie. Puis regarder ce que le philosophe de la philosophie du vivant dit. Quelle est l'immanence du vivant, de la vie végétative et sensible? Y en a-t-il une? On le verra. Ne devancez pas. Pouvez-vous préciser ce qu'est cette immanence du vivant? Tiens, voilà. Est-ce la conscience que j'ai de mes opérations vitales? Ou est-ce que j'ai l'expérience la plus forte? Ou est-ce que j'ai l'expérience la plus forte de cette immanence? C'est évidemment le point de vue de la vie intellectuelle. Regardez un très bel article de Thomas d'Aquin qu'il faut avoir lu. Dans le 4e livre du Contrat Gentilès. Chapitre 11, je crois bien que c'est le chapitre 11, où saint Thomas montre comment on peut se servir de l'opération immanente pour découvrir le fruit de cette opération immanente. Et là, cette opération vitale immanente, pour montrer que plus une opération est vitale, plus elle est immanente. Et par là, pour montrer que l'immanence est la propriété de l'opération vitale. La vie, c'est celui qui soumeut. Voilà la première immanence. Faites l'expérience, plutôt ne faites pas l'expérience vous montez un escalier. Ça, c'est l'immanence de votre vie. Vous luttez contre la pesanteur. Surtout si vous portez des grosses caisses. Parce que si vous laissez tomber, elles dégringoleront. Puis vous ratez et vous tombez. C'est pour ça que je ne peux pas faire cette expérience. Et vous roulez. Et vous descendez l'escalier. Dès que vous n'êtes plus vivant, vous suivez la loi d'apesanteur. Donc vous êtes mu par l'ensemble de l'univers. Quand vous vivez, vous orientez votre mouvement dans le sens que vous voulez, l'immanence, il se meut. Et je crois que la science biologique d'aujourd'hui ne fait que certifier cela. Elle montre la difficulté qu'il y a de voir le vivant et le non-vivant. Je me souviens quand j'enseignais la philosophie du vivant, il y a déjà longtemps. Au Solchoir, un étudiant dominicain, à la fin du cours, m'a dit : « Mon père, pourquoi vous ne commencez pas par montrer la différence du vivant et du non-vivant ? Parce que c'est quand même un gros problème aujourd'hui de voir à la fois la continuité de notre monde physique qui touche au terme des réalités qu'on ne sait pas si elles sont vivantes ou pas vivantes. Est-ce que c'est vivant ou c'est pas vivant ? Et que dans le monde du vivant, si vous descendez très bas, vous ne savez plus si vous avez affaire à une réalité physique ou à une réalité vivante. Ce serait quand même intéressant, parce que si on ne sait pas distinguer la ligne de partage entre le vivant et le non-vivant, ben, ce qu'on dit sur le vivant, c'est pas très bien ce qu'on dit. Alors je dis non, pas du tout. Je fais juste l'inverse. C'est tellement difficile de discerner si tel corps est purement physique ou vivant. Comme problème, mais c'est tellement difficile qu'il faut d'abord savoir ce qu'est le vivant. Pour comparer le vivant et le non-vivant, il faut d'abord savoir ce qu'est le vivant, est-ce que savoir ce que c'est que le corps mu. Et donc, on commence d'abord par chercher ce que c'est que le vivant. Et le vivant que je connais le mieux, c'est l'homme. Et donc, je cherche en moi. Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Je suis un être vivant. Et chacun d'entre vous, vous avez l'évidence d'être un être vivant. Est-ce que vous mettez ça en doute ? Je crois pas. Je suis un être vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis un être vivant ? Et vous ne dites pas « je suis un être mort ». Vous pouvez dire, métaphoriquement, « je suis un être mort ». Mais vous ne direz jamais « je suis un être mort ». Votre cadavre ne pourra pas dire « ce sont les autres qui disent que vous êtes mort ». Jamais ça, c'est curieux. Donc votre je suis ne constate pas la mort. Vous n'avez pas l'expérience de la mort. Moi non plus, du reste. Je ne l'ai pas. J'ai l'expérience de temps en temps de ce que représente la fatigue, la vieillesse. Qu'est-ce que c'est par rapport au vivant ? Un vivant vivant jeune à vivant vieux. Et ça se traduit par une souplesse, hein, la souplesse du vivant, la souplesse du gosse qui fait du ski. Hein, ça m'amuse toujours énormément. Hein. Enfin, un gosse qui fait du ski. Tandis qu'en voyant une grande personne de 70 ans qui fait du ski, oh là là, c'est plus délicat. Tandis qu'un gosse qui fait du ski, c'est extraordinaire, il fait des pirouettes comme ça. Mais la souplesse du vivant. Alors on pourrait mettre la souplesse. Est-ce que c'est la souplesse ou l'immanence? Ah, la souplesse vient de l'immanence. Alors vous pouvez comprendre ce que c'est que la souplesse. Vous pouvez comprendre ce que c'est que l'immanence par la souplesse. Je veux bien. L'immanence, c'est la victoire de la forme sur la quantité. La quantité, c'est l'extériorité. Une brique à côté d'une brique. Une pierre à côté d'une pierre. La quantité est source d'extériorité. Et la vie est une victoire sur la quantité. C'est très très curieux. C'est la victoire sur la quantité. Et la vie ne connaît pas d'extériorité. Elle assimile tout. C'est le bois qui assimile tout. Et on est vivant quand on est un grand. On est un grand vivant quand on assimile le plus. Et quand vous êtes obligé d'avoir un régime, ça peut arriver. Mal au foie, mal à l'estomac, j'ai un régime. Diabète, j'ai un régime. Parce que vous êtes un petit vivant. Si vous étiez un grand vivant, vous n'auriez pas de régime. Vous assimilez tout. C'est qu'un petit vivant, il doit faire attention. Il y a des choses que je n'assimile pas, non ? Pas pour moi, ça. À côté, il y a un bois. Vivant, il assimilé. Mais c'est l'immanence. L'assiette qui était à côté de vous, elle disparaît. Et où est-ce qu'elle a disparu? C'est extraordinaire ce que c'est que l'assimilation. On essaiera de le voir. Mais vous touchez l'immanence. C'est pour ça que la première opération du vivant, c'est l'assimilation. Le vivant lutte contre l'extériorité. Il ne peut pas supporter en tant que vivant l'extériorité. Et c'est pour ça qu'en nous, il y a l'extériorité, parce qu'il y a notre corps qui tient une place. C'est évident. Quand on doit mettre 80 personnes dans une place qui en contient, dans un lieu qui en contient 20, on voit ce que c'est. Le métro. Surchargées. Là, on dirait comme des sardines. Elles sont mortes aussi, les sardines, alors les vraies. Bon, alors l'immanence, on verra petit à petit. Mais regardez cet article de Thomas d'Aquin qui est très très beau. Il fait ça pour entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. La procession immanente. Dont le fruit est interne. Oui. Alors voyez bien, l'immanence du travailleur, il possède en lui ce qu'il doit faire, de l'artiste. L'idéa est en lui. Oui, il commande tout son travail. Et le travail s'extériorise dans l'œuvre. Et si j'étais un grand vivant, voyez, vous comprenez pourquoi je ne commence pas par voir la différence entre le vivant et le non-vivant. Le philosophe cherche à savoir qu'est-ce que c'est que le vivant. Et ce qui est très intéressant, cette philosophie du vivant, c'est que c'est Aristote le premier qui vraiment traite du vivant de la manière scientifique. Platon décrit, mais n'analyse pas. Et avant Aristote, il y a eu des recherches sur la vie intellectuelle, la découverte du nous. Mais s'il n'y a pas eu d'études sur le vivant, c'est ça l'avantage. Après Aristote, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur le vivant. Whitehead, entre autres. Il a étudié le vivant. Bergson. Et avant tout un scolastique, ça, il y a eu quand même un très gros travail dans la scolastique sur le vivant. Puisque Thomas d'Aquin s'est servi d'Aristote pour traiter ce que c'est que le vivant et la vie. Regardez dans le traité sur Dieu, Aristote se pose la question de savoir si Dieu est un vivant. Le livre Lambda d'Aristote, des métaphysiques. Et le premier problème, c'est de voir que le vivant pose une question qui n'est pas résolue par la question du corps, qui n'est pas résolue par la question du vivant. Ça pose une question nouvelle par la constatation de ce qu'est le vivant. Et c'est donc la première question qui se pose et qu'Aristote pose tout de suite. Mais indépendamment d'Aristote, posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que la vie en vous ? Je me souviens, c'était le professeur Marois, professeur de faculté de médecine à Paris, spécialiste de la biologie et de la biologie génétique, avec l'Institut de la vie qu'il a lancé, qu'il a fondé. Il m'a dit, cette fois-ci, on va essayer de définir ce que c'est que la vie. Alors quand il m'a dit ça, j'ai souri. Je lui ai dit, vous me donnerez la définition de la vie. Alors il m'a dit, pourquoi ? Vous croyez que c'est un faux sujet ? Je lui ai dit, vous n'arriverez jamais à définir la vie. La vie, ça ne se définit pas. Vous pourrez regarder la différence de l'être, ce qui est, et le vivant. Vous pourrez comprendre dans le vivant qu'il y a diverses modalités d'être vivant. Une modalité végétative, sensible et puis spirituelle. Mais vous n'arriverez pas à définir la vie. La vie, ça ne se définit pas. Alors il m'a dit, alors ça se décrit. Non, on essaie de l'analyser. Et voir les fruits de cette analyse. Mais c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Tout simplement. Je pars de ma vie que j'expérimente en moi. Faites la petite analyse, facile à faire. Tous les jours, toutes les opérations vitales vous avez l'expérience. Première expérience vitale, quelquefois très douloureuse. Le réveil matin. Vous aimez beaucoup votre réveil, parce qu'il est un instrument très particulier pour vous faire sortir du sommeil et vous réveiller. Il y a une expérience de la vie tous les matins. Ça ne veut pas dire que quand je dors, je ne suis plus un vivant. Pour Freud, quand on dort, on est un très grand vivant. Quand on est réveillé, on est un vivant beaucoup plus ennuyeux. Il n'y a bien plus de fantaisie quand on dort. On est libéré de tout le contexte conventionnel. Et la bête qui est en nous reprend tous ses droits. Elle dit à l'intelligence et la raison, quand on dort, tais-toi. Et tous les soirs, vous dites à votre intelligence, tais-toi. Tu as assez bavardé pendant la journée. Puis vous dormez. Vous vous endormez. Comme un ange. On dit ça, l'expression, il s'endort comme un ange. Et les anges ne dorment pas. C'est pour ça que les enfants, quand ils disent « dors comme un ange », les enfants n'aiment pas dormir. C'est un signe de vieillesse d'aimer dormir. Dites-vous bien ça. C'est un signe de vieillesse et de fatigue d'aimer dormir. Un enfant n'aime pas dormir. C'est la chose la plus pénible de la journée quand on dit « allez vite, vite, allez dormir ». Pas du tout. Pas envie du tout. Pourquoi le gosse n'aime pas dormir alors qu'il aime d'être réveillé? Il aime de chahuter, il aime de crier, parce que il manifeste son autonomie, il manifeste qu'il est indépendant, qu'il est tout court. Pour moi, vivre, c'est exister, c'est être. Et c'est pour ça que l'enfant n'aime pas de dormir, parce que quand il dort, il y a tout un aspect de lui, de son être, qui ne se manifeste plus. Il ne sait pas ça, il n'en a pas conscience, mais c'est plus fort que la conscience. C'est quelque chose de très radical. Alors que quand il commence à vieillir, il aime de dormir, j'aime de me reposer. Alors, c'est la première expérience que nous avons tous, et tous les matins. Et c'est très intéressant de voir la manière différente dont les auteurs, dont les philosophes traitent du sommeil. Il n'y a pas beaucoup de traités de sommeil, mais avec la psychanalyse, c'est revenu. Il y a très peu. Mais le réalisme d'Aristote, c'est d'avoir fait un traité sur le sommeil. Alors ceux qui aiment dormir, lisez le traité du sommeil d'Aristote. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est un sujet philosophique très intéressant de relever tous ceux qui ont fait des traités sur le sommeil. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vite fait. Aristote considère que le sommeil, c'est se remettre à ce tout qui est l'univers, au grand tout. C'est vrai qu'on s'en remet. Quand vous vivez, vous avez une vie individuelle, particulière, et vous aimez de la manifester. Quand vous dormez, le rythme du tout. Vous perdez votre individualité propre, votre personnalité propre, pour faire que en vous, l'élément fondamental de la vie reprenne tous ses droits. Et c'est pour ça que Freud aime de diviser en deux parties la vie de l'homme quand il est éveillé, quand il dort. Différence capitale. Je comprends, différence capitale. Il faudrait que c'est une expérience si importante au point de vue de la vie d'expérimenter le réveil. Je me réveille. Et la première idée qui vous vient quand vous vous réveillez, si vous êtes très pieux, vous voyez tout de suite, si vous êtes très pieux, vous mettez à genoux et vous adorez. Si vous l'êtes moins, vous l'oubliez. Puis le petit chien qui est en vous s'étend. Il est plus ou moins de bonne humeur. Je n'ai pas assez dormi. Il est grincheux. Puis c'est temps. Il fait un peu de gymnastique. Il secoue. Ça, c'est le petit animal qui se réveille. C'est curieux, hein. Ce passage du sommeil au réveil, c'est très très curieux. Il faut y penser. C'est une expérience capitale. Alors pour Freud, quand on est réveillé, c'est le devoir. Vous devez être hanté de Kant. Le devoir. Ah, c'est pas drôle. C'est le devoir. Le sommeil, c'est le plaisir. Parce qu'il n'y a plus de devoir. Normalement, quand vous dormez, vous êtes exempt du devoir. Et vous vous détendez, vous reposez. Vous êtes au rythme de l'univers. Et plus votre rythme à vous. Et quand on est trop tendu, on ne peut plus dormir. Ce cauchemar terrible de ne pas pouvoir dormir. De ne plus dormir. dans des prisons. Ils sont des prisons de pays marxistes. Il faut voir cela jusqu'au bout. Donc, première expérience, la complexité, cette dualité qui est en moi. Je suis quelqu'un qui dort, qui est heureux de dormir et de bien dormir. Puis j'ai un être heureux de se réveiller. Et il se réveille. La dualité. Et il y a un rythme différent. Est-ce que vous priez pour dormir? Et si vous dites oui, je prie pour dormir, ça commence à être grave. Ça prouve que vous êtes très, très fatigué et que vous cherchez le sommeil. Tandis que si vous êtes encore de bons enfants, vous ne priez pas pour dormir. Vous priez pour la gloire de Dieu vous priez pour ne pas avoir des coups durs durant la journée. Seigneur, évitez la tentation. Je dois voir, le permettre. Je prie pour que ça se passe bien. Je demande au Seigneur que ça se passe bien. Et ainsi de suite. On prie pour Dieu, pour la gloire de Dieu. On prie pour soi. Et on prie pour les autres. La prière est un acte vital. Je sais qu'en priant, je m'éveille à ce qu'il y a peut-être de plus profond en moi. Le petit déjeuner, c'est un acte très important pour beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'il se réveille qu'à ce moment-là. Quand avant, c'est un petit peu somnambule. Somnambule. Tandis qu'au petit déjeuner, ah, ça, on est chez soi. Petit déjeuner, c'est quelque chose. C'est très curieux, hein. La détente de la nourriture. Se nourrir. Et c'est une opération agréable. Ordinairement, quand on voit ce petit déjeuner, les physionomies sont bonnes. Bien. Et on se nourrit. Et on se nourrit humainement. Parce qu'on ne va pas brouter. Il y a un art. Il y a eu un cuisinier. Ou une cuisinière. Et c'est le fruit de tout un labeur. Et un labeur que les hommes aiment bien. Ils aiment bien cuisiner. Ils aiment bien avoir leur bon petit café le matin, bon petit tilleul, quelque chose de bien. Vous voyez, il y a une espèce d'éveil, d'une certaine joie. Alors, on garde le silence, non pas pour mieux savourer, pour être plus. On garde le silence monastique. C'est un silence monastique. Aimer plus Dieu, le remercier. Mais c'est pas pour savourer davantage. Non. On finalise. C'est curieux. Le réfectoire demande d'être finalisé. Il ne se finalise pas par lui-même. Quand il se finalise par lui-même, on dégringole à un niveau végétatif. Non, j'ai pas besoin de finaliser ça. J'aime manger, c'est suffisant. Aimer manger, est-ce que c'est humain? Là, l'éthique intervient. Est-ce qu'il vaut mieux manger pour le plaisir de manger, cette joie comme naturelle? C'est bon. Même quand c'est frugal, c'est bon. Le pain, c'est bon. Le lait, c'est bon. Le café, c'est encore meilleur. Et il y a une graduation, n'est-ce pas ? Si on avait du pain chaud, ce serait encore beaucoup mieux. Ce serait beaucoup mieux. Et puis, il y a encore autre chose. Là, il y a des gens encore, du beurre, de la confiture. Ça, c'est la Suisse qui nous a amené ça. C'est curieux, n'est-ce pas ? De mon temps, jamais un moine n'aurait pris le matin du beurre et de la confiture. Non, c'était une exagération, l'un ou l'autre. Allez, deux. Et là, est-ce que ça veut pas dire, et quand il n'y en a plus qu'un, petit déjeuner est un petit peu abîmé. Ou bien c'est le carême. Alors là, très bien. C'est curieux, la place de la nourriture. Dans les pays qui se cultivent de plus en plus, la nourriture prend de plus en plus de place. Les repas monastiques sont rapides. Quelquefois, parfois trop rapides, mais ils sont rapides. Alors que le repas familial, et le repas monastique est familial. Mais c'est sûr que la vie végétative, j'en vis de diverses manières. De temps en temps, j'ai tellement faim que je ne pense qu'à ça. Je me précipite dessus. Puis de temps en temps, la faim étant apaisée, je peux penser à autre chose. Puis après, le travail, et ainsi de suite. Notez toute la diversité des opérations. Et c'est toujours vous. Vous pouvez aimer plus ou moins. Vous pouvez établir un ordre de valeur dans ces diverses opérations. Un ordre de valeur. Où, posez-vous la question, où suis-je le plus vivant? Vous me le direz la fois prochaine. Où suis-je le plus vivant dans la diversité de ces opérations? Ce serait très intéressant comme test.